Alors, on va continuer et certainement aller un peu plus loin que la première fois, hein, notre cher épître, premier épître de Pierre. Et puis, je vous rappelle juste un tout petit peu l'introduction que je vous avais donnée la dernière fois. On avait vu que c'était avec l'aide de Sylvain comme secrétaire qu'il avait écrit la première épître et certainement pas la deuxième, parce que la deuxième est dans un grec un peu moins fluide et on peut s'imaginer que Pierre l'a écrit tout seul, hein. Et puis que cette lettre, elle s'adressait aux croyants de l'Asie mineure, et également que cette lettre était dans un but premier pour encourager les chrétiens face aux persécutions qui allaient venir, et persécutions qui allaient être très fortes d'ailleurs à partir de l'an 64 sous l'empire
Néron.
de Néron. Hein.
Néron.
Voilà, oui, il y aura vraiment beaucoup de chrétiens à Rome qui vont se retrouver massacrés. Donc, c'est pour cela qu'on peut s'imaginer que la date de rédaction de cette lettre se situe entre 60 et 63 après Jésus, hein, donc avant la persécution par Néron. Et puis, cette lettre a peut-être été écrite à Babylone, hein, parce que. Il est dit dans 5, verset 13, l'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Hein, donc, voilà. Cette lettre a peut-être été écrite à Babylone. Il est possible que Pierre séjournait là-bas à ce moment-là. Et on avait vu un tout petit peu le premier chapitre, la vue d'ensemble. On va relire d'ailleurs ce premier chapitre, peut-être pas en entier, on va relire les 12 premiers versets pour se remettre dans le bain. Et puis on verra si on va plus loin, ben on fera la lecture plus loin. La vue d'ensemble de ce premier chapitre, en premier, on peut dire que Pierre entame cette épître en rappelant aux croyants qu'ils ont reçu un appel glorieux et un héritage céleste en Jésus-Christ. Que leur foi et leur amour ici-bas sont sujets aux épreuves et au criblage, ainsi qu'à l'apparition du Seigneur, où ils obtiendront louange, gloire et honneur. Que ce grand salut avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament est le quatrième point qui structure un peu ce premier chapitre. Que les croyants doivent mener des vies sanctifiées en se démarquant du monde dépravé qui les entourent. Donc la sanctification, c'est un petit peu le sujet qui nous avait tenu en haleine la dernière fois. On y reviendra, mais plus lié à ce qui est écrit ici si on aborde cette deuxième partie du chapitre. On y reviendra, mais plus lié avec ce qui est écrit dans la lettre elle-même. Et puis on avait aussi ce qui nous avait tenu en haleine aussi, c'était la prédestination. Hein. On avait abordé ces deux thèmes, la sanctification, la prédestination. C'est vrai que c'est du costaud. Il n'y a rien encore à dire, mais que nos langues se retiennent. Non, mais voilà, c'était chouette tout ce qu'on a pu aborder. C'est inévitable que des sujets comme ceux-ci font qu'on ne peut pas faire les cinq chapitres le premier soir. Alors, je vous propose on va lire deux versets chacun en tournant comme ça, en partant peut-être depuis moi. Et puis, on s'arrête au verset 12. Et si on a le temps, ben après, on fera la suite encore ce soir, mais on va voir comment on avance. Hein. Donc, on ne s'est pas donné un but à atteindre ce soir. On verra bien comment les choses se passent. Donc, je lis 1 Pierre 1, les deux premiers versets, puis après, on peut tourner comme ça, chacun deux versets. Alors, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Ici, c'est tout un verset. Le verset saint, oui, c'est tout.
C'est la même phrase.
Bon. Lequel vous est réservé dans les cieux.
Lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves.
Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Depuis le 10, verset 10.
Le 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce que vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie.
Il leur fut dévoilé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient messagers de ces révélations, que nous ont annoncées maintenant ceux qui, poussés par l'Esprit Saint envoyé du ciel, nous ont évangélisés et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard.
Voilà, merci. Alors, comme je disais juste précédemment, donc la première partie, Pierre rappelle aux croyants qu'ils ont reçu un appel glorieux et céleste en Jésus-Christ, ainsi que leur foi et leur amour ici-bas sont sujets aux épreuves et au criblage, ainsi qu'à l'apparition du Seigneur, où ils obtiendront gloire, louange et honneur, que ce grand salut avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Hein, c'est un petit peu ce qui structure les 12 premiers versets. Ici, on peut débattre sur un verset ou sur un autre. Et puis, moi, j'ai aussi un petit peu préparé de la matière. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà une main qui se lève?
Ouais, c'est comme tu disais, cette épître, elle est pour préparer les chrétiens effectivement à l'épreuve et puis aux persécutions. Du reste, les persécutions, elles avaient déjà commencé, puisqu'il y a eu la dispersion des chrétiens de Jérusalem qui sont déjà partis, etc.
Dont justement, peut-être certaines personnes faisaient partie ici, voilà, ceux qui lisaient cette lettre.
Exactement. Bon, tu as parlé aussi de Babylone, que ça aurait été éventuellement. Mais il y a aussi des personnes qui pensent que c'est à Rome que ça s'est écrit, que Pierre était déjà à Rome.
Et puis que c'était Babylone de manière symbolique.
Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Alors, c'est clair que moi, je pense que c'est une épître qui est merveilleuse pour nous, parce qu'on est dans des temps, heureusement, elle n'est pas persécutée, mais on pourrait l'être. Du reste, dans le monde, on voit les persécutions qu'il y a partout. Donc, pour nous, c'est aussi une épître qui peut nous encourager vraiment, quoi. Et puis, on voit aussi que, finalement, il dit que la foi éprouvée est beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, etc. Donc, il veut dire aussi par là, je pense que, quelles que soient les persécutions ou les souffrances qu'on peut avoir, sur cette terre actuellement, eh bien, ça n'a aucune valeur par rapport à cette foi et puis à la récompense qu'il y aura dans le ciel plus tard. Bon, j'anticipe peut-être un petit peu.
Mais... Non, on est tout à fait dans ce passage. Mais, et puis, en effet, l'exemple que prend Pierre par rapport à l'or, L'or ne perd jamais vraiment complètement sa valeur, hein, et c'est un bon exemple. Pourtant, à la fin des temps, c'est ce qui arrivera, parce que tout sera tellement chamboulé que même l'or ne vaut plus rien. Mais à l'heure actuelle, l'or, on sait, hein, de toute économie, ça reste une valeur refuge. Donc, notre foi a plus de valeur que l'or. Et pourtant, l'or, c'est quelque chose quand même, ça, quelque chose de précieux.
L'épreuve, c'est difficile à supporter. Alors, il faudrait savoir comment supporter l'épreuve.
Alors,
Vas-y.
Non. C'est juste comme ça, mais c'est clair que c'est aussi en fonction des événements et puis de la dureté de la vie qui fait qu'on s'approche aussi. En général, on remarque que dans les épreuves, on s'approche beaucoup plus du Seigneur, malheureusement, que quand tout va bien. Donc, je pense que là, il y a une réaction qui se produit pour un rapprochement, puisque finalement, il n'y a vraiment plus que le Seigneur qui est là, je veux dire, qui est avec nous.
Je crois que la réponse à la question d'Anna, elle est juste dans les versets. Elle est là, dans au verset 4. Juste un peu avant, Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans la lecture, ça m'a frappé. Vous qui êtes gardés. Et je crois, comme Alexandre a dit, que c'est une épître d'encouragement. L'apôtre Pierre veut encourager à l'avance, avant de parler des épreuves, que les chrétiens, nous les chrétiens, on est gardés par la puissance de Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut penser tout ce qu'on veut, mais c'est la puissance de Dieu qui nous garde. Et puis, Jésus lui-même disait, hein, ne vous inquiétez pas, au moment même, il vous sera donné de dire ce qu'il faut dire, ne vous inquiétez pas à l'avance, etc., etc. Mais vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Et si on lit Pierre, il utilise souvent cette pensée pour encourager. Il dira de même, la puissance divine nous a tout donné pour vivre. La puissance divine nous garde. Vous êtes gardés par la foi, par la puissance de Dieu. Et je crois que dans notre confiance à Dieu, comme lui, hein, parce qu'il l'a bien aussi expérimenté, Pierre. Il a été gardé quand il était dans la prison, par exemple.
Ouais, c'est un exemple. Il dormait. Il était vraiment confiant. Hein,
mais qui c'est qui pouvait dormir, hein, comme Jonas un peu. Il dormait au fond de la cale. Pierre, il dormait dans la prison. Il s'est rendu compte qu'un ange l'a délivré seulement quand il était dehors.
Alors qu'il avait déjà eu, dans la prison d'Hérode, il avait déjà eu la mort et puis par décapitation de Jacques, hein, je crois.
Jacques, frère de Jean.
De Jean, ouais.
Jacques, le frère de Jean, a été décapité. Mais Pierre, ils ne l'ont pas décapité.
Non, mais il aurait pu imaginer qu'il le serait.
Oui, ouais. Et puis il dormait quand même, et puis le Seigneur l'a délivré. Ouais. Donc Pierre
a vécu. Je pense qu'il serait mort autrement.
Oui.
S'il n'avait pas été délivré, il y a une forte chance qu'il y passait aussi.
Ouais. Alors je crois que pour moi, pour nous tous, hein, parce que moi j'ai la trouille, je pense que n'importe qui peut avoir au moins une espèce de crainte, d'une appréhension de qu'est-ce qui pourrait nous arriver, parce que ça vient gentiment. Les chrétiens sont de plus en plus mis de côté, mal aimés, maltraités, etc. Et puis c'est Dieu qui va nous garder.
Oui, c'est pour ça qu'il est parlé de cet héritage qui nous est réservé, qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir. C'est merveilleux, c'est réservé pour nous dans les cieux. Alors quand on ira là-haut, on aura cet héritage. C'est merveilleux.
Et puis justement, ça souligne encore une fois ce que tu viens de dire, à mon humble avis, que double encouragement. D'abord, il présente l'héritage qui va nous recevoir. Pour cet héritage qui nous est réservé, on est gardé. Donc l'encouragement est double. Et puis même les premiers versets, hein, vous avez été élus, donc vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des élus, l'héritage vous est réservé, vous êtes gardés, Il y a de quoi alimenter notre foi.
Notre joie.
Et puis après, c'est ça qui fait votre
joie.
C'était dans le trait d'union, ce témoignage dans l'Est de l'Europe, le jeune qui devait être tué, qui était maltraité, là, torturé en présence de son père. On avait arrêté son père. Pour, je crois que c'était dans le trait d'union, hein, c'est ça. Oui.
Mais, ah oui, j'ai lu aussi.
Oui, oui, voilà. Alors là, le père voulait, je dis tout, mais le fils a dit non, 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 arrête, Jésus est tellement beau, donc ça c'est... Ouais. Il ne faut pas avoir peur. ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, que ce jeune qui a dit non, ça ne fait rien, je ne sens rien. Ça fait rien, j'ai dû être mort.
Oui, c'est touchant. Hein.
Oui.
Ça, c'est un peu Étienne aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il donne le Seigneur aussi la possibilité de supporter finalement, et puis de vivre ces moments-là, puis par la puissance qu'on lui dit, comme il est capable aussi de sauver directement, de sauver Pierre, par exemple, dans la prison. Mmh. Mais par contre... voilà, il y a les deux aspects. Hein.
Ah ouais,
il y a les deux aspects. On peut être sauvé par moi, là, c'est le mystère. Hein. Voilà, le mystère de Dieu.
Par rapport à l'épreuve, hein, parce que ce n'est pas que la persécution, hein, mais voilà, c'est différentes sortes de souffrances. C'est étonnant aussi, là, ce que Pierre dit au verset 6, pour rebondir toujours un peu sur ce qu'a dit notre sœur Anna, là. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour... un peu de temps, hein, donc il y a une durée, par diverses épreuves. Mais c'est vrai que la durée du Seigneur, des fois, c'est pas la nôtre. Hein.
Un jour est comme mille ans.
Donc, mais c'est quand même étonnant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, donc il y a quand même, il y a quand même l'idée que c'est pas youpla, à fond la joie, top fun, quoi, encore des épreuves. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Hein. Donc l'épreuve, elle fait partie aussi de notre chemin de chrétien et de sanctification. Hein. Mais puisqu'il le faut, donc une vie chrétienne sans épreuve,
c'est comme si c'était normal. Moi, ça m'encourage parce que c'est comme si c'était.
Ça n'existe pas, je crois.
Justement, que c'est normal. Une si on a des épreuves, qu'on est dans la bonne voie, on est en bonne voie aussi. Donc c'est très encourageant. Moi, ce verset m'a toujours beaucoup encouragé. Mm-hmm. Aussi pour un peu de temps, quoi. Et c'est rien à côté de toute l'éternité, quoi. Moi, ça m'a toujours ce verset. Il me donne beaucoup de force, quoi. Oui.
Puisqu'on éprouve l'or, pour qu'il soit bien pur et tout, alors à combien plus forte raison, puisque notre foi est plus précieuse que l'or, alors on est éprouvé par le Seigneur.
Mais c'est vraiment pour un peu de temps, quoi. Il y a un chant qui dit « Toute chose pâlisse à sa lumière », puis oui, quand on regarde à Dieu, quand on regarde à sa puissance, c'est rien, tout ce qui nous arrive. Moi, c'est combien de fois, il faut tourner nos regards vers Dieu, il y a plein de chants qui chantent ça, mais c'est pas pour rien, parce que les choses... nos petites choses terrestres, elles pâlissent à la lumière. Moi, j'ai vraiment vécu ça plus d'une fois, que cette paix que Dieu peut donner, même quand on a les pires choses autour de nous, c'est une réalité. Quand on regarde à lui, il nous donne vraiment sa paix, sa force, sa puissance. Puis c'est rien à côté, parce que justement, il y a cette éternité qui nous attend. Donc, c'est vraiment un verset, moi, qui m'a souvent encouragé, ce verset 6, puis qui répond bien à cette question, comment tenir dans l'épreuve. C'est vrai. Pour un peu de temps.
Oui. C'est comme disait Gisèle, l'épreuve, elle durera toute notre vie chrétienne, puisque elle est nécessaire. Et puis on entre déjà dans le domaine, comme disait Alexandre avant, de pas seulement de la persécution, mais aussi de la sanctification. Et Jacques dit la même chose. Parce que si on regarde bien, que ce soit épreuve ou tentation, c'est le même mot, la même racine. Alors, chaque épreuve est une tentation, chaque tentation est une épreuve, et ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie de la sanctification. Et Jacques dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Mmh. Et puis ça m'a fait, quand Marie-Lyne parlait, ça m'a fait penser à ce je le dis drôle entre guillemets, cet étonnant verset de Paul, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Donc ça rejoint ce qui est ici, cette épreuve aura pour résultat la louange, la gloire. Et quelqu'un a donné une fois une image, et c'est ça qui m'est venu à l'idée maintenant, je crois que j'ai entendu ça quand j'étais plus jeune. Nous, c'est comme si Jésus faisait une tapisserie avec nous, brodé, un tapis brodé. Alors nous, on ne voit que l'envers du tapis brodé, on voit tous les nœuds, tout partout, où les fils se recoupent, se recroisent, se déchirent, il y a des nœuds, ça recommence. Puis un jour, Jésus nous montrera le beau côté du tapis. Amen. Puis on dira, oh, c'est pas possible.
Puis même, je pense que c'est dans l'Apocalypse qu'il y a aussi quelque chose où il a dit que nos larmes qui ont été recueillies.
Ouais.
Toi qui connais bien, Apocalypse, je sais plus ça, mais c'est de l'Apocalypse, mais ça aussi, ça parle, ça veut dire que chaque fois qu'on pleure tellement c'est dur, qu'on a des épreuves, et ben c'est pas, Dieu il voit vraiment chaque chose, puis ben, là aussi, puisqu'il le faut, donc c'est pas, il prend pas plaisir à ce qu'on souffre, puis qu'on est une épreuve, dans les épreuves, mais ça a une utilité, et puis que oui, il en tiendra compte, puis ça c'est aussi important, quoi qu'on n'ait pas, c'est peut-être, ça peut donner l'impression, mais pourquoi il nous arrive toutes ces choses, toutes ces épreuves, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on est maudit, mais non, justement, il le faut, donc ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est à côté de la plaque et puis qu'on fait des choses, que Dieu ne nous aime pas et qu'il nous maudit, au contraire, c'est comme un père reprend ses enfants, quoi. Donc... c'est rassurant.
Oui. David Valdez, quand il, je sais pas, si quelqu'un voulait dire quelque chose, quand il a parlé de Job, je sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être une année, il parlait de Job. Il nous disait que Dieu nous dit jamais, enfin nous dit, peut-être on peut comprendre pourquoi on a telle et telle épreuve, si parfois elle est la conséquence directe d'un péché, d'un faux pas, ou je sais pas, ou d'un mauvais choix. Il y a parfois des conséquences directes, mais autrement. Dans le cas de Job, par exemple, il n'y avait pas de conséquences directes. Dieu l'a démontré après. Mais c'est que David Valdez nous avait dit ce jour-là, et qui m'est resté gravé dans la mémoire, c'est que Dieu ne dit pas forcément pourquoi on souffre. Il dit c'est nécessaire, mais parce que Jésus a passé par là, c'est impossible que les servantes et les serviteurs ne passent pas là où le maître a dû passer. Mais que Jésus, il ne dit pas pourquoi on doit souffrir, mais il est là, il comprend, et il disait surtout, il est présent. Des fois, justement, pire de l'épreuve, on a l'impression que Jésus nous a abandonnés. Puis David Valdez disait, mais justement, ce n'est pas vrai. Quand on s'imagine que Jésus nous a abandonnés, eh bien justement, il est là. Il est là plus que jamais.
Ouais. C'est cette histoire des pas dans le sable.
Oui,
c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si vous avez pu... Moi, dans mes expériences personnelles, je peux vous dire que je suis passé par pas mal de camps épineux. Et ce qu'on peut dire, c'est que consciemment ou inconsciemment, dans les deux cas, on est gardé par la puissance de Dieu, qu'on soit conscient ou inconscient. Et les épreuves, tout dépend de la foi qu'on a vis-à-vis du Seigneur. Si on s'approche de lui d'un cœur sincère, on voit, si on veut, il nous traite d'une manière comme un père vis-à-vis de son enfant, et nous donne ce courage pour surmonter l'épreuve dans laquelle on passe. C'est comme ça qu'on la surmonte. Parce que si on ne lui fait pas confiance et on ne vient pas à lui, automatiquement on tombe dans la déprime et puis dans la vision humaine des choses. Et là, on peut le voir quand on passe par des épreuves et qu'on fait ces séparations et qu'on les met dans les bons tiroirs. C'est là qu'on se rend compte de la fidélité de Dieu vis-à-vis de ses enfants. C'est quand on s'approche de lui, dans les grosses épreuves, et qu'on lui fait confiance, il intervient. Mais si, dès qu'on s'écarte de cette relation, automatiquement on tombe dans l'humain, dans les limites humaines, et on commence à avoir la dépression, des problèmes de santé ou n'importe quoi, automatiquement, dès qu'on s'écarte de cette relation.
Moi, j'ai pu donc plus ou moins, en passant par certaines épreuves, constater cela. Et toujours, on est plus que vainqueur par celui qui nous fortifie et qui nous remet toujours en selle. Moi, j'ai pu constater et remercier le Seigneur qui chaque fois nous remet en selle. Même si on est complètement en bas, qu'on est KO, on est tombé de la selle d'un cheval, on s'est fait mal en tombant par terre, il nous rebooste, il nous remet en selle et puis il nous fait repartir de l'avant. C'est quelque chose qu'on peut, dans sa vie chrétienne, on peut éprouver, on peut vivre ça. Et ça donne du courage, quoi. Ça donne du courage, ça nous encourage à garder la foi et aller toujours de l'avant.
Oui, et c'est pour ça que des fois dans l'église, on est attristé parce que tel frère ou telle sœur claque la porte ou bien critique les uns et les autres. Voilà. Et il ne se rend pas compte que c'est Dieu qui l'a mis à l'épreuve au travers de tel frère ou telle sœur, parce que c'est bien qu'une fois ou l'autre, un frère ou une sœur, il soit comme du papier d'Emery. C'est pour un peu polir, hein, la vie de l'autre. Et puis si on supportera d'être un petit peu poli par le Seigneur au travers d'un événement ou d'un frère ou d'une sœur, plouc, on claque la porte et puis on s'en va. Hein.
Ça démontre aussi ce que tu disais, oui, c'est bien. Ce que tu disais aussi, Georges, c'est que ça démontre aussi une prise de position. Soit on dit, maintenant c'est le Seigneur qui va m'aider, ou bien alors, effectivement, quand on a des primes, comme tu disais. Et puis cette prise de position, on la voit aussi, par exemple, un exemple très concret, c'est nos frères et sœurs coptes en Égypte, qui ont été arrêtés dans le désert. C'est exactement les persécutions qu'on avait sous Néron, mais là c'est avec... où ils ont été arrêtés dans le car et ils ont dû dire qu'ils s'ils croyaient vraiment Allah et qu'ils reniaient le Christ, ou je ne sais pas exactement comment c'est allé. Et ils ont tous pas voulu renier, mais ils ont eu la force de le dire. Ils ont tous été abattus d'une balle dans la nuque, y compris les enfants.
Même tous les enfants. Il y avait un bus d'enfants, un bus d'adultes.
C'était d'entrée d'union aussi, non? C'est parce qu'il y en a
eu.
Non.
C'était dans la fin. On a lu ça. Dans l'Express.
Ah.
C'était marqué dans l'Express. C'était marqué.
Je l'ai lu.
À la télé, dans l'Express, dans les deux. Dans les deux. Moi, je suis abonné à l'Express.
Oui, mais à Internet aussi, j'ai vu ça. Il y a un petit garçon qui a échappé à ça et qui rendait témoignage.
C'est là que je l'ai lu.
Il y avait le détail. Parce que dans les journaux, il n'y avait pas le détail. Ça s'est su après parce qu'il y a eu des témoins. Quand
ils ont mis deux bus. Un
parce
où il y avait
les bus, n'ont pas été attaqués.
Voilà. Ils ont tué le bien.
Il y a un bus, oui.
Ils ont tout trahi à la Kalachnikov.
Oui, mais moi j'ai vu, ils interrogeaient
un petit enfant
qui était dans le bus où on a tué tout le monde. Et lui, il était épargné, ou cet enfant était épargné, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, il a bien expliqué tout ce que tu viens de dire. Il devait renier Jésus et personne n'a renié Jésus. Et chaque fois, il était tué d'un coup de revolver.
Et les restes, ils ont tous assisté.
Ils ont tous vu ça les uns et les autres. Ce garçon,
dans l'autre bus, il y avait un pasteur. Puis il a prié. Puis il ne savait pas comment s'en sortir. Il a dit, Seigneur, je suis prêt. Prends. Puis après, le chef, là, avec son fusil, quand il a vu le papier, la carte d'identité pasteur, il est allé vers le grand chef. Puis il a dit, il y a un pasteur. Puis tout d'un coup, il est arrivé quelque chose. Je ne sais pas quoi.
Mais ça, c'était au Nigeria.
C'était au Nigeria.
Oui.
Mais c'était aussi un peu une histoire comme ça.
C'était le pasteur.
Tout d'un coup, il y a eu quelque chose, le bus a pu partir.
Mais oui, Dieu l'a protégé.
Ça, c'était le pasteur Kupra qui avait donné le témoignage de quelqu'un qui devait venir pour l'évangélisation. Ça, c'est des histoires incroyables. On voit que Dieu agit. Alors, pourquoi, en effet, ce serviteur a été préservé, puis tous les autres, et même les enfants, sont morts? C'est comme tu disais, à l'image du tisserand là,
du tapis,
qu'on voit depuis dessous. Et je pense qu'en effet, on a de quoi se poser le pourquoi l'épreuve, pourquoi Seigneur tu réponds pas, pourquoi tu me laisses là, pourquoi tu agis pas, pourquoi tu as pas sauvé ma famille. Mais je pense qu'il y a des frères et sœurs vont perdre leurs proches, des frères et sœurs en Christ vont perdre leurs proches, peut-être toute leur famille même. Et puis, ils vont quand même pouvoir garder la foi, garder la paix.
Et même pardonner les bourreaux. On le voit avec l'église qui a brûlé aussi chez les Coptes. Là, il y a des chrétiens coptes qui ont dit qu'ils pardonnaient. Mais ça, nous, on ne peut pas... Moi, je ne m'imagine pas, disons, pouvoir pardonner ce genre de choses. Mais le Seigneur, de nouveau, nous donne la force au moment opportun pour le faire.
Ça ne vient pas de nous.
Non, c'est ça que Pierre veut dire, ça ne vient pas de nous. Voilà. Vous avez déjà chanté ce chant, « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ». Mais vous connaissez l'histoire. Moody, vous avez déjà entendu parler de l'évangéliste Moody qui allait en Angleterre, et puis Sankey, qui était un grand chanteur, il allait aider Moody pour l'évangélisation, puis il avait une grande entreprise, il a vendu son entreprise pour aller aider Moody dans l'évangélisation. Sa femme et ses deux filles sont partis d'avance, plutôt que lui, sur le bateau pour aller en Angleterre. Puis pendant qu'il restait à la maison pour régler les affaires de l'entreprise, il reçoit un télégramme, accident, naufrage.
Sauvé seul, elle a écrit.
Les deux filles sont décédées. Puis c'est après cette terrible perte qu'il a écrit ce chant. Quel repos céleste, Jésus. C'est incroyable de pouvoir écrire des choses comme ça dans des moments pareils.
Ouais, c'est sûr.
Mais je crois que c'est comme disait Georges, et puis le texte de Paul, ça dépend tout la perspective qu'on a. Parce qu'au premier abord, ce texte, moi je disais, mais Paul, alors t'es un sagouin. Nos légères afflictions, parce qu'il y en a qui ne passent pas des temps. Nos légères afflictions du moment présent. Quelqu'un a dit, Paul, j'aurais deux mots à te dire.
Mais il était moué, Paul, il a reçu des pierres en Afrique.
Mais bien sûr, aussi l'un qui pouvait dire, c'était bien lui. Mais c'est pas qu'il méprisait les...
Non,
il voulait qu'on regarde les choses de en haut, la perspective céleste. Comme a dit Georges, tout dépend comment on regarde.
Et puis si Pierre, là, ce qu'il dit, hein, puisqu'il le faut, hein, voilà, donc, puisqu'il le faut, qu'on passe par différentes épreuves, et afin, il y a la réponse, là, le pourquoi aussi de l'épreuve, en tout cas, une des pistes, hein, il y en a bien sûr plusieurs de réponses, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui se pendant éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, l'épreuve est là pour épurer notre foi. Et puis, aura comme résultat la louange, la gloire et l'honneur. Pour nos vies, c'est quand même assez fort. Alors oui, on doit en effet des fois retrouver cette perspective de l'éternité. Parce que le Seigneur n'a pas fini avec nous, et même si on devait mourir de manière sans gloire, hein, entre guillemets, hein, l'homme terrestre aime finir en apothéose. Hein, il y a peu de sportifs, par exemple, quand ils sont tout en haut de leur carrière, qui se laissent aller jusque tout en bas, hein, à être relégué toujours dans les ligues plus basses, puis pour finir vraiment... Dans le plus pire des clubs, sans aucun salaire, et comme ça. À un moment donné, quand on voit qu'on est tout en haut, ben, on va décrocher. Hein. On ne veut pas faire que des contre-performances, ce n'est pas intéressant. L'homme aime finir dans la beauté. Ben, des fois, nous, notre fin à vue humaine ne sera peut-être pas très glorieuse, hein, méprisable. D'ailleurs, vous parliez de... Moi, je n'avais pas entendu hein, cette histoire de ces gens coptes qui ont été massacrés là en Égypte. On peut s'imaginer que certains journalistes ont dû se dire « Mais quelle stupidité, on va pas parler de ce qu'a dit cet enfant. C'est ridicule qu'ils aient dit « Oui, Jésus » pour prendre une balle dans la nuque. Mm-hmm. » Hein? À vue humaine, autant dire « Allah », c'est juste une différence de langage, c'est tout. À vue humaine, pourquoi dire « Jésus » puis prendre une balle dans la nuque? Il y a peut-être des journalistes qui ont eu cette réflexion-là, et puis qui cette partie du témoignage, ils l'ont effacé des grands médias comme par hasard. Parce que c'est vrai que c'est plutôt, entre guillemets, une mort. Faut-il mourir pour sa foi, hein? à vue humaine, est-ce que ça vaut la peine de mourir pour sa foi? Je pense qu'on a fait souvent la réponse négative.
Non, mais de dire à Allah, c'est tout faux, parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, tandis qu'Allah, il n'a pas de fils.
Mais c'est pas Dieu.
Et surtout, Allah, il n'est pas Dieu non plus.
Mais pour nous, on est clair.
Mais celui qui veut jouer sur le mot Allah et Dieu, parce qu'il y en a pas mal qui jouent aujourd'hui avec ça. Mais quand tu dis Jésus, ça c'est autre chose.
C'est autre chose, c'est sûr. Mais pour un non-croyant, j'entends, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, commencer à prendre une balle dans la nuque pour Jésus ou pour Allah, pour lui, c'est un peu la même chose. En tout cas, ce n'est pas une mort très glorieuse. Hein, autant mourir en train de défendre sa patrie ou je ne sais pas quelle noble cause. Mais la cause de Jésus, à vue humaine, est-ce que ça vaut la peine de prendre une balle? Je dis bien à vue humaine.
Parce que c'est quand même une mort glorieuse, bibliquement. Enfin,
oui, c'est sûr.
Il n'y a qu'à voir le premier martyr. Jésus se lève à la droite de Dieu pour accueillir Étienne. Ça veut tout dire.
Oui, mais maintenant, comment les Coptes sont reçus au ciel?
Il faut y aller pour voir.
Bonne idée.
C'est quand même une religion. Si je dois aller dans une église copte ou une église catholique, je leur dirais, attendez, vous êtes à côté. Et ça me travaille aussi. Oui, ils n'ont pas renié Jésus devant les musulmans, mais est-ce qu'ils sont dans ce que Paul nous dit dans sa parole? Est-ce qu'ils sont sur ce cheminement-là? Paul, surtout dans les Romains, le texte des Romains, où on parle beaucoup de la nouvelle naissance, la sanctification, etc. Est-ce que les Coptes, ils ont compris ça? Parce que quand on regarde les églises coptes, ils ont beaucoup de faux dieux, de saints, je veux dire, saint machin, saint ceci.
Oui, bon, et ils font des aussi rites, les catholiques, alors à ce moment-là.
Oui, les catholiques
dirais,
aussi.
Tu dirais les catholiques ne sont pas sauvés, mais ça, moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont, même dans toutes les erreurs qu'ils ont, dans toutes les idoles qu'ils ont, il y a des fois extraordinaires en Jésus-Christ, et des gens convertis. Mm-hmm. Je ne dis pas que tous les catholiques sont convertis, mais alors là. Mais.
Non, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai assez vécu ça.
Ça serait du sectarisme de dire que les catholiques, et notamment les coptes, qui n'ont pas voulu renier Jésus, qui ne seraient pas dans le ciel. Quoi. À mon sens, alors,
c'est pas le critère, je dirais. Ce qu'ils ont fait ou pas fait, de la façon qu'ils sont morts, en martyrs ou pas. Je crois que la Bible nous donne un critère. Que, indiscutable, si quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne lui appartient pas. Quiconque n'est pas né de Dieu n'entrera pas au ciel. Jésus le dit, si vous ne naissez de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu.
Mais celui qui confesse publiquement le nom du Seigneur, il est sauvé.
Ouais.
Donc, si tu confesses le nom de Jésus, c'est qu'il y a déjà l'esprit de Dieu qui habite en toi.
Alors, après, il y a le texte, justement. Il y a le texte qui confirme, personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans l'Esprit. Alors, mais en définitive, je crois que ce n'est pas à nous de nous poser la question.
Non.
Et puis, le Seigneur y sera très bien. Mais c'est vrai que si quelqu'un n'est pas né de Dieu, et puis s'il n'a pas dit Jésus par la puissance de l'Esprit, eh bien, il n'est pas sauvé, c'est tout. Mais Jésus, Dieu, il fera le tri, il n'y a pas de souci.
Tout à fait.
C'est ce que Jésus enseigne dans la parabole de la bonne semence et de l'ivraie, où les disciples, ils veulent arracher la l'ivraie, la mauvaise graine, je sais plus si c'est le père de la moisson, je sais plus comment c'est formulé, qui dit non, mais c'est au moment de la moisson, c'est le père qui va faire le tri. Et c'est vrai que le tri ne nous appartient pas. Parce que des erreurs doctrinales, on n'est nous-mêmes pas à l'abri. C'est vrai qu'à côté, on voit ça gros comme la baraque. On se dit, non, mais attends, les catholiques, depuis, ils auraient quand même dû saisir deux, trois trucs. Ou les orthodoxes, ou les réformés, ou que sais-je. Mais nous aussi, on n'est pas à l'abri. Et puis, Dieu fait grâce. Parce qu'il sait qui appartient au royaume, quoi, qui a remis vraiment sa vie entre les mains du Seigneur. Et puis aussi parce que Dieu, il regardera aussi selon la connaissance qu'on a eue. Hein. Il y a des gens, les connaissances, ils auront peu eu, parce qu'ils sont peut-être beaucoup dans... Ils n'ont même pas accès aux écrits, hein. Ils n'ont pas la possibilité de lire. Et puis alors, la foi vient de ce qu'ils vont entendre. Et s'ils entendent beaucoup de traditions, ils vont aussi construire là-dessus.
Mais bibliquement, c'est mentionné pour répondre à la question.
Oui, c'est ce qu'on a dit.
Catholique, tout ça.
Quelle que soit la religion.
Il y a marqué dans la Bible.
Dans la Bible, le critère est indiscutable. Le critère est. Comment est-ce qu'on dit
Il a des brebis dans différentes bergeries.
Voilà.
En disant dans différentes bergeries, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi bien chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, chez les coptes, voilà. Moi, je pense dans différentes bergeries, ça veut dire ça. Dieu, il regarde au cœur, selon l'esprit qu'il a mis dans chaque cœur, dans chacun de ses enfants. Moi, je pensais comme ça. Hein.
Mais Dieu ne triera pas, excusez, Dieu ne triera pas autrement que ce qu'il a dit dans la parole. Il ne fera pas de... de contour, comment est-ce qu'on dit
de chemin de travers.
Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne verra pas le royaume de Dieu ou n'entrera pas dans le royaume de Dieu, c'est que c'est ça. Puis maintenant, pour nous, on n'a pas besoin de s'occuper de cette question, c'est lui qui s'en occupe. L'étiquette ne fait pas foi. C'est pas l'étiquette qui fait foi, c'est le Saint-Esprit.
Voilà,
si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si c'est par l'Esprit de Christ que quelqu'un a dit Jésus est Seigneur, alors il a l'Esprit. Parce que personne ne peut dire Jésus est mon Seigneur ou Jésus est mon Sauveur s'il n'a pas l'Esprit. Personne ne peut le dire. Alors si quelqu'un a l'Esprit puis qu'il le dit, qu'il soit copte ou catholique, Mais c'est vrai que c'est pas la grande majorité des gens qui sont dans ces communautés universalistes où l'évangile est prêché.
Puis on ne sait pas, Dieu seul le sait.
Exactement. On peut savoir qu'il y a un critère que Dieu respectera. Et puis voilà.
C'est les temps de persécution, hein, c'est difficile parce que justement, si on revient au texte biblique, là c'était avant les persécutions de Néron. Il y a certainement des personnes, et moi j'avais entendu un enseignement là-dessus aussi, des chrétiens qui ont peut-être renié leur foi à cause des persécutions. Et puis qu'une fois la persécution finie, ils sont revenus à l'église. Alors comment est-ce que l'église a accueilli ces gens-là, hein? Est-ce que c'est des gens, est-ce qu'on peut encore leur faire confiance ou c'est vraiment des sœurs et des frères en Christ?
Enfin, Pierre, il a renié Jésus trois fois.
Voilà.
Jésus est venu vers lui pour.
C'est de nouveau du jugement.
Mais les questions sont posées quand même dans l'église primitive. C'est vrai que ces frères et sœurs coptes ont eu la foi. On peut dire, hein, je pense quand même qu'il faut la foi pour dire Jésus. Hein. Mais s'ils avaient renié,
En tout cas, il faut beaucoup prier. Je viens de lire dans la feuille aujourd'hui que nos députés, ils ont été assermentés. Il y en a qui ont refusé la religion.
Par la Bible.
Il y a les noms qui sont marqués. Alors je dis, Seigneur, pour que je puisse tenir le coup. Est-ce que je dois me doper comme les sportifs? Parce que c'est à l'heure actuelle, c'est le sacrement. J'ai eu la réponse tout de suite. Vous avez vu?
Je n'ai pas compris. J'oserais avoir.
Oui, il faut parler plus fort.
Oui, un petit peu plus fort.
Oui. Alors, je ne sais pas comment, qu'est-ce que je racontais. les députés, ils ont été assermentés aujourd'hui.
Oui.
Puis il y en a qui refusent la cérémonie religieuse.
Hein, on met la main sur la Bible.
Je dis au Seigneur, est-ce que je dois me doper pour tenir? Ouais. Ben, ça vient dur, hein, ces derniers temps. Le Seigneur m'a ouvert les yeux tout de suite. Vous savez pourquoi? Il faut lire la Bible, je suis d'accord. Mais notre champion suisse de lutte qui avait tout la place d'armement pour parquer les bagnoles, les vélos et tout. Il a voulu, vous savez ce qu'il a fait. Oui.
Il a fait une chute de 12 mètres.
Il a fait une chute parce,
Qu'il voulait faire des photos pour l'illustrer.
Pour l'illustrer, ouais. Il est monté sur une grue, et il est en bas, il est détruit cette fois, il ne pourra plus faire la lutte.
Il a déjà survécu à 12 mètres, c'est déjà mieux.
Vous me dites, alors ça,
il était chrétien?
Non. Mais pour dire c'est vrai, peut avoir le dopage à être tout en haut. Je sais pas si c'est dopé.
J'essaie de faire bien. Attention, toi, ta religion vélo, ça peut être une religion. J'ai dit oui, je sais.
Non, on ne sait pas.
Il y a la barbe, il y a tout. Il faut pas mettre ça en premier lieu.
La vie peut basculer.
Je ne vais pas au culte à Neuchâtel, je vais au Jura en vélo.
Mais c'est vrai que lui, à lui-même, encore hier, comme pour l'année passée, c'est quand ils ont fait la Avanche, et puis. C'était vers la place, l'aérodrome militaire, non? C'était une star, il est moins une star chez nous, mais en Suisse allemande, c'est une véritable star. Mais oui, puis d'un coup, votre vie bascule. Alors, c'est vrai, on a besoin. Là, on peut dire, elle a basculé. C'est étonnant, le gars, il se fait prendre une photo sur une télécabine, je crois. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a perdu l'équilibre. Donc, c'est vrai, on peut être tout en haut de la réussite et puis tout perdre. On a besoin que le Seigneur nous fortifie. Mais moi, je vous propose juste qu'on finisse. Avec les deux derniers versets là, qu'on a lus ce soir, par rapport à l'Ancien Testament, de voir que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont aussi cherché à comprendre quelle était l'époque et quelles étaient les circonstances qui allaient révéler le Christ. Et puis, ça c'est dans le verset 10 et 11, et 12, pardon, aussi. Et puis, ils ont dû comprendre aussi que ce n'était pas le temps pour eux. Ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ils étaient ceux qui allaient les annoncer, mais ils n'étaient pas ceux qui allaient les vivre. Et aujourd'hui, peut-être une fois, je viendrai sur ce thème, une fois, j'espère que vous ne me lâcherez pas après un dimanche au culte, mais sur le messianisme. Parce que ça, c'était du messianisme aussi. Ils ont cherché à comprendre quel était le temps. Et par la grâce de Dieu, ils ont compris que c'était pas le moment où le Messie allait se révéler. Et aujourd'hui, du messianisme, des fois, dans nos courants, on parlait de fausse doctrine, des fois, dans nos courants du messianisme, on en a aussi dans nos courants évangéliques, où on aimerait bien que Jésus-Christ vienne régner sur terre et tout. Et puis, une fois, peut-être, je viendrai sur le sujet d'Israël, parce que dans le sionisme, on a aussi pas mal de messianisme, Et puis, il y a des gens qui vont prendre des passages dans l'Ancien Testament en disant, voilà, c'est le temps de l'accomplissement des prophéties. Et puis, quand on s'arrête un petit moment sur ces sujets-là, on voit que ce n'est pas le temps. Parce que clairement, ces passages bibliques nous montrent que certaines choses, certains textes sont vraiment pour le règne de Jésus-Christ sur cette terre. Et ce n'est pas pour l'époque d'aujourd'hui. Donc, il faut aussi beaucoup d'humilité pour pas que l'Église glisse aussi dans un faux messianisme. Et ces hommes de l'Ancien Testament ont eu cette humilité de reconnaître que les révélations grandioses qu'ils avaient reçues, parce qu'ils ont dû vivre des temps extraordinaires, on peut s'imaginer, Ésaïe, les prophéties qu'il a reçues, Daniel, etc., il y avait de quoi booster sa foi, avoir l'humilité de dire, c'est pas pour moi. Ce temps-là, il n'est pas pour moi. Un jour, il viendra, mais il n'est pas pour moi aujourd'hui. Et je le remets pour les générations futures. Et il y a toujours un peu cette tension dans l'Église de vouloir glisser dans un messianisme. Un des messianismes très connus, c'est celui du Moyen Âge, c'est les croisades. Ça donnait ça. Peut-être une fois, je reviendrai là-dessus juste un dimanche. Les croisades, c'est du messianisme. On leur a dit, allez libérer le tombeau de Jérusalem, et puis vous verrez, ça va être magnifique, et tout va se transformer. Ce sera le pays des rêves pour chacun. Et c'est pour ça que les gens au Moyen-Âge, comme ça, se sont levés aussi. Aujourd'hui, on rigole, mais un Bernard de Clairvaux, là, qui est un moine, quand il prêchait ça, les gens, ils étaient subjugués, parce que c'était de la belle théologie. Et les gens se sont levés sur des prédications comme ça. Et aujourd'hui, nous, on doit aussi avoir beaucoup d'humilité pour que dans nos investigations, dans nos recherches aussi par rapport à la parole de Dieu, on puisse sonder les époques et les circonstances, des prophéties et puis des temps aussi où ces prophéties vont s'accomplir. Voilà.
Mais même là, personne n'est d'accord. Enfin, quand je dis personne n'est d'accord, même là, il y a des courants, différents courants, et la concordance n'a pas... Une concordance plus ou moins sur quelques éléments a pu être sur à peu près 7 éléments. Les différents courants ont fait une concordance, mais sur tous les autres éléments, si Jésus va le règne de 1000 ans, oui ou non, avant, à la tribulation, avant, après, tout ça.
Il n'y a pas une entente totale.
Ah non, il n'y a pas. Même encore aujourd'hui, certains professeurs de théologie n'osent pas aller enseigner dans des facultés où par exemple, un amillénariste n'ose pas aller enseigner dans une école de théologie prémillénariste, par exemple, ou millénariste, ou dispensationaliste, et puis inversement. Bon, maintenant, il y a quand même eu de l'eau qui a passé sous les ponts. Et puis, mais je me rappelle, quand j'avais 19 ans, à l'Action publique, si t'étais pas de tel et tel bord, Alexander est venu souper chez nous une fois. Puis il me dit, alors Joseph, t'es dispensationaliste, prémillénariste? Puis j'ai dit non, je suis ni un millénariste, ni prémillénariste, ni dispensationaliste, qu'est-ce que j'ai dit, ni, je sais pas, rien du tout, ni mi-tribulationniste, ni pré-tribulationniste, ni post-tribulationniste. Je suis tout simplement biblique et je reste sur les 7 points de concordance qu'on peut prouver par la Bible. Pour le reste, je lui dis, qui vivra verra. Ah bon?
Alexandre.
Le grand évangéliste.
Le grand patron. Je ne suis pas allé questionner comme ça.
Le grand patron de l'Action biblique.
Le père.
Celui qui a créé à Genève l'école biblique.
Le fils. Le fils, mais il était du même.
C'était John, Alexander John, quelque chose comme ça.
John Alexander.
Ouais.
Ils ont une école biblique à Genève.
Ah, mais alors justement, et moi, quand j'ai appris ça à Emmaüs, j'ai presque chialé. Parce que je me suis dit, mais miséricorde insondable. Qu'est-ce qu'on va se... En Afrique même, certains professeurs d'ici ne pouvaient pas aller enseigner à Bangui ou je ne sais pas où, parce que si, ça, puis j'ai dit, mais qui vivra verra, on ne veut quand même pas se chicaner pour des choses qu'on ne peut pas prouver. Il n'y a aucune, comment est-ce qu'on dit, aucun système qui est sans faute. Ils le disent eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi on veut s'énerver pour ça.
Ça
ne vaut pas la peine.
Nous, avec notre petit cerveau, on ne comprend pas ce que Dieu nous dit.
Non.
Dieu a dit beaucoup de choses, il y a des choses qui nous le cachent.
Ouais.
Ce n'est pas à nous à le savoir. On doit marcher par la foi, un point c'est tout.
Tout ce qui nous intéresse, qui devrait nous intéresser, je m'excuse, je ne voulais pas couper la route, tout ce qui devrait nous intéresser au premier degré, Jésus revient. Ouais. Après, on sera toujours avec Jésus, puis ce qui va venir après, alléluia, merci Seigneur.
Amen. Mais quand même, il faut faire attention parce que on peut avoir des faux courants théologiques et puis qui vont construire des fausses doctrines. Il y a quand même, c'est là où on doit avoir de la prudence et puis de l'humilité pour dire ok Seigneur, en effet, j'ai peut-être pas tout compris à certaines choses, je suis convaincu. Maintenant, en effet, on va pas se chipoter sur les détails. Mais moi, je vous parlais de Jésus, de savoir à quelle époque est-ce qu'il allait se révéler. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Alors, on ne va pas dire que voilà, hein, partir dans des dates ou je ne sais pas quoi, hein, ce n'est pas ça. Mais si on pense qu'en faisant certaines choses, on va précipiter le retour du Christ, mes amis, je suis désolé, mais on est quand même un peu dans une fausse doctrine. Et puis, j'aurai l'occasion une fois de venir là-dessus, peut-être, Dieu me prête envie. Mais le sionisme, il est des fois un peu dans ce discours-là. Hein, en faisant certaines choses, le Messie va arriver. Mais parce qu'ils vont aussi prendre des textes dans l'Ancien Testament et puis ils vont se baser là-dessus. Mais est-ce qu'ils ont vraiment bien compris le temps pour l'accomplissement de ces versets? Voilà, hein, bon, autre sujet. Mais si on pense aux persécutions qui allaient venir pour les chrétiens d'Asie mineure, je pense qu'ils avaient peut-être déjà été au courant de certaines doctrines, mis au bain de certaines doctrines qui leur annonçaient peut-être que des grandes choses. Et puis Pierre, lui, venait à contre-courant complet, hein, avec justement sujet de joie complète, les épreuves, hein, c'est plus précieux que l'or. Hein, c'est un autre discours que peut-être un christianisme conquérant. Et puis on saura que, bien juste, moi je connais peu, j'ai pas beaucoup étudié cette époque-là, mais on sait qu'un jour le christianisme deviendra aussi religion d'empire, hein, et pour le meilleur et le pire, hein, d'ailleurs.
Le baiser de la mort. Mais je m'en rappelle, quand on était, moi, on était en Afrique, notre voisin est venu avec une brochure de Wim Malgo. Et puis il s'appelait Joseph aussi. Puis il dit, Joseph, Jésus revient cette année, il était prêt. Puis je dis, comment tu sais ça, toi? Ben regarde, puis la date n'était pas mentionnée, mais c'était écrit 1948, établissement de l'État d'Israël. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Une génération, 40 ans, vous pouvez faire le calcul.
Ah,
ouais,
calcul.
Hein. 1948 plus 40 ans, ça faisait 1988. Ouais. Et puis on était pile en 1988. Puis à la fin de l'année, Jésus n'était pas revenu.
Oui, mais c'est vrai qu'on est dans le danger, hein, de faire de ce genre de choses.
Le danger est partout.
Hein, ça, c'est sûr.
Avec un nom comme Milan, etc. Les adventistes aussi calculent.
Et puis, combien il y en a qui ont fait ça?
Mais il y en a, ils ont vendu des bouquins, ils ont fait de l'argent là-dessus. Hein. Ok, bon, ben, merci pour le partage.